La ville est pleine de bruit, pleine de cris. La ville est pleine de flics et de trafic, d'ordures et de brûlures, d'essence et d'indécence. Mais la ville est pleine de poésie aussi. Il n'y a qu'à regarder, il n'y a qu'à écouter Poésie in the City le vendredi après-midi. On the air sur Radio Galère. La poésie se crie, se crée, s'écrit dans les rues, les bars, les arbres et sur le sable. Elle surgit sur les murs recouverts de mots, de dessins, de graphes, de tags. Elle resplendit dans l'eau, ruisselant dans les caniveaux et rebondit sur les trottoirs en mode aléatoire. Sans trajectoire définie, sans ordre préétabli. Car tous les chemins, oui, tous les chemins mènent à la poésie. Et les chemins d'ici s'en vont à l'infini, vers la mer, les collines et le ciel, vers la lumière du soleil de Marseille. La ville est pleine de bruit, pleine de cris. La ville est pleine de flics et de trafic, d'ordures et de brûlures, d'essence et d'indécence. Mais la ville est pleine de poésie aussi. Il n'y a qu'à regarder, il n'y a qu'à écouter Poésie in the City, le vendredi après-midi. On the air sur Radio Galère. Bon après-midi, nous sommes le vendredi 1er novembre 2024. Vous écoutez Poésie in the City sur Radio Galère, 88.4 FM à Marseille et les environs, sur Internet, sur le site radiogalère.org. Et l'émission, la radio est également accessible en DAB+, la radio numérique terrestre. Chers auditeurs, auditrices, c'est Julie Cat au micro pour l'émission Poésie in the City consacrée à la poésie dans la ville. Et aujourd'hui, j'accueille au micro de la radio Marie Hachel. Bonjour Marie.
Bonjour Julie.
Marie, tu es autrice et architecte. Tu vis à Marseille où tu as lancé il y a quelques mois les Stades Poétiques, scène ouverte de poésie. Et c'était d'ailleurs le sujet de Poésie in the City du mois d'octobre dernier, puisque nous nous sommes rendus avec Sidi à la Librairie Internationale pour enregistrer en direct la scène ouverte que tu animais. Fin septembre, tu as publié ton premier recueil de poésie, Jardin, aux éditions L'Arbre à Parole, maison de la poésie d'Amé. Et donc, c'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui. On va parler de ce recueil, on va parler aussi de tes activités d'autrice, de ton parcours de création. Donc, tu as fait des études d'architecture et après tes études d'architecture, tu fais un master de création littéraire et tu dis que tu as délaissé l'acte de construire pour te consacrer à l'écriture. Comment cela s'est-il passé? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Est-ce que tu peux nous expliquer cette rupture peut-être ou cette continuité entre l'architecture et l'écriture?
Oui, merci beaucoup déjà de m'accueillir pour Poésie in the City. Je suis ravie d'être là. Et oui, effectivement, j'ai étudié l'architecture jusqu'au bout. Enfin, je suis allée jusqu'au bout de ces études-là. Et disons que j'ai su très vite que je ne voulais pas construire, que en tout cas c'était, j'avais un attrait immense pour la fabrique du territoire, la réflexion sur le vivre ensemble dans une dimension, disons, anthropologique, sociologique. En fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que pendant mon diplôme, j'ai travaillé sur un site qui se situait dans le désert au Moyen-Orient et j'ai eu tellement de mal à concevoir un espace avec des outils d'architecte qui convoquent en fait des outils du réel que j'ai eu des envies d'écrire de la fiction pour la première fois de ma vie. C'était un petit peu déstabilisant parce que déjà ça faisait plusieurs années que je lisais presque plus de fiction parce que c'est des études hyper prenantes et que je lisais essentiellement des essais ou des trucs super techniques, voilà. Et en fait, je me suis dit, ah, en fait, ouais, pour aller au-delà, enfin, pour repenser des modes de vie, des espaces, il faut que je puisse raconter des histoires, en fait. Peut-être parce que j'étais un petit peu déconnectée de... J'avais pas... Voilà. Je me suis dit, je vais continuer des études et trouver un nouvel outil, un autre outil.
Et donc, tu as fait une partie de tes études à Jérusalem, en fait. Hein, c'est peut-être dans ce cadre-là que tu es partie au Moyen-Orient.
Oui, tout à fait.
Dans le désert.
Ouais, ouais.
Et justement, pour illustrer ton propos, est-ce que tu aurais un texte à nous partager qui raconte un petit peu ce rapport, soit cette expérience Moyen-Orient, soit ce parcours entre dans l'espace.
Oui, bien sûr. C'est vrai que ça a été une période de ma vie qui a changé beaucoup de choses. Et voilà, ça fait quelques années maintenant que je suis de retour en France et un petit peu moins longtemps, mais quand même un certain nombre de temps que j'ai pris la décision de ne pas y retourner, de ne pas aller vivre là-bas. Et donc, ouais, j'arrivais pas vraiment à écrire sur ce j'arrivais pas vraiment à raconter quoi que ce soit
sur cette expérience
sur ces espaces là voilà. Mais là, il y a quelque temps, j'ai démarré l'écriture d'un texte qui s'appelle Caillou, qui est complètement à l'état de manuscrit pour l'instant et qui commence à aborder un petit peu ces lieux.
Donc c'est un inédit alors.
Exactement. Super. C'est tout chaud, tout frais, voilà.
Bon, ben, on écoute Marie-Achel Caillou.
Une stèle en pierre beige, un monticule de cailloux sur le côté. Elle est assise sur la stèle. La danseuse est derrière un rideau, sa silhouette est visible. Elle. C'est une terre où on m'avait recommandé de ne pas aller. Cette terre était morcelée comme un mouvement saccadé et long d'un corps ou de plusieurs corps, mon corps jeune de femme et les corps jeunes et vieux d'enfants et d'adultes de cette terre. Ma mère avait donné mon numéro de téléphone à un de ses amis, elle avait dit « Il connaît la terre, lui, il la connaît ». C'était pour qu'il me dissuade de partir. C'était pour qu'il me dise avec ses mots au téléphone « Ne pars pas ». C'était pour qu'il me fasse peur. Je suis partie quand même. J'avais envie. C'était peut-être une envie non avouée, que la terre fasse quelque chose de mon corps. J'avais envie de prêter mon corps à autre chose, à d'autres mains. Je voulais entrer dans une danse ou une pulsation. Quelque chose dont je ne connaissais pas le nom. Et j'ai dansé. J'ai dansé. La danseuse danse librement. De retour, ma mère a détesté ma coupe de cheveux, mais elle s'est retenue de le dire. Elle m'a dit « Tu es devenue une femme ?» Et j'étais gênée de ce qu'elle disait. Je n'étais devenue rien du tout. Rien d'autre qu'un corps dansant, ayant appris à danser le morcellement, en secret. Le morcellement d'une terre dont je peinais à dire l'histoire de chaque petit caillou, de chaque petit corps qui vit sur un petit caillou, de chaque petit caillou lancé sur les petits corps, de chaque petit caillou déposé sur chaque petite stèle recouvrant les petits corps. La danseuse danse librement. La danseuse. Dans la tradition juive, les cailloux sont dispersés sur les tombes pour signifier la présence de la personne défunte récemment, mais ils permettent aussi de symboliser des souvenirs, de garder l'esprit de la personne dans le monde réel. Un monde réel qui serait rassurant, encore quelques temps, avant d'aller ailleurs.
Merci Marie. C'est un texte que tu as commencé à écrire là-bas, à Jérusalem, non pas du tout.
Non, pas du tout. Vraiment, c'est un texte que j'ai commencé à écrire il y a quelques mois.
D'accord.
Et que je suis en train de travailler en ce moment.
Ok. Donc, tu parles du rapport au corps, du rapport à l'espace, de la danse aussi. Ce sont des sujets qu'on trouve déjà dans le jardin.
C'est vrai.
Donc, Jardin publié aux éditions L'Arbre à Parole, sorti fin septembre. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce recueil? Comment il est venu à toi? Comment les textes se sont écrits?
Alors, c'est vraiment un texte qui est venu de manière très fluide et très impulsive. Je l'ai écrit quand je suis arrivée à Marseille pour m'installer ici il y a 2 ans. Et j'avais pas encore d'appartement. Je vivais d'abord chez une amie et puis après chez d'autres amis. Enfin voilà, j'étais un peu flottante, j'avais une valise quoi. Et j'écrivais tout le temps en fait. Dès que j'en avais l'occasion, la possibilité, j'écrivais dans mon téléphone, dans mes notes de téléphone, dans un petit carnet et sur mon ordinateur que je trimballais un peu partout. Et en fait, je crois que c'est un moment de... Enfin, ça correspond vraiment à une atmosphère qui s'est déroulée sur une saison d'hiver, dans un espace inconnu pour moi.
La ville de Marseille.
La ville de Marseille, qui je trouve est très, très, très particulière en hiver par sa lumière et par l'espèce de plénitude que ressentent, je pense, ses habitants. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'accalmie vraiment pendant cette saison qui... Enfin, voilà... L'été à Marseille, je trouve qu'il y a quelque chose de très contrasté, de très criard. Voilà, ça part dans tous les sens, il y a de la bagarre et tout.
Il y a du feu.
Il y a du feu, exactement.
C'est la lumière, c'est ça. La chaleur.
Et en hiver, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de voile de douceur et ça m'a énormément touchée. Et ça s'est emparé de moi, quoi. Et donc, j'avais vraiment C'est cette envie, mais viscérale, de raconter ça, quoi. Mmh. À travers ce que je voyais, ce que je pensais. Je pense que ça m'a complètement imprégnée. Donc, Jardin, ça retrace ce parcours que j'ai vécu à travers mon corps, à travers la ville de Marseille, et dans cette recherche d'un espace pour vivre.
Un espace hors de la ville, justement, hors de tout ce qui est urbain, parce que on sent justement la nature qui se fraye en chemin dans le texte. Ah, tu vas nous lire des extraits tout à l'heure, mais c'est ce que j'ai ressenti, que ça se passe en ville. Il y a plein de marqueurs, la boulangerie, le café, la pharmacie, la rue. Et en même temps, on sent que la nature essaye de se frayer en chemin dans tout ça, de manière plus ou moins sauvage. Et puis après, elle se déploie dans certains paysages, la mer, la plage, la campagne aussi. Avant que tu nous lises quelques extraits de Jardin, je propose qu'on écoute une chanson que tu cites dans ton texte, que vous allez reconnaître et qui fait écho à tout ce que tu viens de nous dire. C'est une chanson d'Henri Salvador. Je ne vous dis pas le titre, mais vous allez le reconnaître tout de suite.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cohère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs. passer les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre.
C'était donc Jardin d'hiver d'Henri Salvador. Donc cette chanson, tu y fais référence à un moment dans ton recueil Jardin. Je vais lire le petit extrait où tu en parles et puis tu vas nous donner quelques détails ensuite. Donc tu écris « Une amie chante au téléphone Jardin d'hiver avec un accent et j'entends le rythme de sa voix dans mon corps. J'ai envie de larmes. Dans le jardin, je vois des plantes bouturées, des plantes de terrasse, des plantes qu'on offre, des plantes qu'on achète, des plantes qu'on vole. » Qui est cette amie ?
C'est Rimone, voilà. Donc, c'est une amie israélienne avec qui j'ai vécu quand j'habitais dans le désert, en fait. Dans le désert du Negev. Rimone, ça veut dire grenade. Et en fait, on se téléphone souvent et disons que c'est aussi une période où il y a eu beaucoup d'incertitudes et de doutes et de peurs et donc c'était un soir, on était au téléphone toutes les deux et puis je sais pas, comme une amie pourrait réconforter une autre amie, elle m'a chanté cette chanson comme une petite berceuse ou enfin voilà pour transmettre de la douceur.
Sachant qu'elle est francophone.
Pas du tout, non, elle parle hébreu et.
Mais elle connaît la chanson.
Et elle
en
connaît
français.
La chanson française. En fait, elle est tellement connue cette chanson que c'est vrai que ça traverse tout à fait le monde.
C'est ça. Bon, bah, du coup, maintenant, je te propose de nous partager des extraits de ce recueil, Jardin. Tu commences par le début, c'est ça ?
Ouais,
tu nous
lis les premières pages ? Oui, je pense que je vais lire les premières pages du livre.
Marie Achel, Jardin.
Le matin, souvent, je ne veux pas me lever. J'attends le dernier moment et après le dernier moment, je reste au lit et je me mets à lire. Comme si les lignes étaient mon corps, debout, autre part, faisant autre chose et surtout pas des choses molles. Quand il le faut vraiment, l'idée de manger des œufs au réveil me donne du mouvement. Dernièrement, j'ai découvert un pain dans une boulangerie. Il s'appelle Désir de Tempête. Je l'ai goûté, il est délicieux. Tous les pains de la boulangerie avaient des noms, comme ça, comme des évocations, et je me suis dit que ça aidait les gens qui ont du mal à savoir où ils et elles sont le matin. Le café est sorti de ma vie il y a quelques mois. J'ai mis beaucoup de temps à arrêter. C'était comme un deuil. Et malgré tout, parfois, je craque presque et j'agis en camé. C'est sûrement pour revivre encore et encore les premiers moments de café dans ma vie dans l'adolescence. Mais je renonce, je raisonne, je pense aux tachycardies, aux états seconds. Je commande plutôt du décaféiné, comme une femme de 63 ans. J'explore le thé vert. Je danse dans un patio avec des plantes. Les portes vitrées du patio sont fermées. Les gens me regardent danser. Il pleut ce soir-là. Mon visage est mouillé. J'ai dansé longtemps étant enfant, puis ado, puis jeune adulte, puis adulte. Ça ne veut rien dire. Je suis encore tout ça en même temps et aussi vieille femme. Quand je commençais à prendre des cours de reggaeton, on m'a demandé de m'ancrer dans la terre. Alors j'ai essayé. Parfois, la danse me fait pleurer et je n'ai pas encore compris pourquoi. Il y a des choses que j'admire. Et parmi les choses que j'admire, ce sont les gens qui se baignent en eau froide comme les lacs gelés en maillot de bain et un feu de bois sur le rivage. J'espère qu'un jour, sans un doute, mon corps pourra faire ça. De l'hiver, je retiens les robinets de la douche à faire couler avant d'y entrer pour que l'eau soit déjà chaude. L'eau est toujours trop chaude au début et je la baisse le temps que mon corps prenne la bonne température. Puis je l'augmente jusqu'au plus chaud que je peux supporter. Une chose d'hiver, et l'envoi de cartes de vœux par la poste avec des mots simples et du papier découpé pas droit à des gens amis et des gens plus lointains, récupérer les adresses, lécher des enveloppes, faire glisser dedans des sortes de poèmes automatiques, coller des timbres nationaux ou des timbres internationaux, plaisanter avec l'employé du guichet de la poste, repartir avec ça en moins, et l'impression d'avoir accompli une grande mission inutile et bête, et que maintenant c'est derrière moi, rituellement. Je suis énervée quand les gens assis dans le train sont à la place où je devrais être assise. Alors je m'excuse, je leur dis « c'est ma place » et immédiatement je dis « je vais me mettre ailleurs, ne vous dérangez pas ». Mais ce que j'aimerais, c'est que les gens se dérangent pour me laisser m'installer, puisque c'est ma place et que si je n'y suis pas, je serai à celle de quelqu'un ou de quelqu'une d'autre et cela crée des réactions en chaîne de ne pas être à la bonne place. Parfois, tôt le matin, les gens dorment déjà dans le train. Et le pire, c'est quand ces personnes sont endormies à ma place. Je n'ose pas les réveiller. Et alors, elles ne peuvent même pas rencontrer la personne de qui elles ont pris la place. Je suis obligée de m'asseoir autre part sans dire un seul mot, en mentant à tous ceux et toutes celles qui sont déjà assis dans le train. Les gens qui dorment en voyage se réveillent avec les traces des lignes d'aération sous les vitres. J'aime les regarder. J'aime aussi regarder tous les voyageurs et voyageuses descendre du train et sortir en dernière. Comme ça, je suis sûre que c'est le bon arrêt. Et je peux voir tous les sièges vides, toutes les places qui seront attribuées à d'autres gens après le passage de l'équipe de nettoyage. En imaginant des chemins l'après-midi, le mouvement des jambes décide à ma place d'aller quelque part et je marche pendant des heures. Je marche sous la pluie longtemps, si longtemps que mes cheveux coulent et mon pantalon et les baskets. Je m'accroche à des falaises et ma peau se colle à la roche. Et je me dis, ma peau, la couleur, la texture, le grain, c'est la roche. L'hiver, la roche très sèche, le soleil franc, les herbes vertes grasses encore là, et je basquette sur les petites prises étroites et je ne pas tomber. Dans une pièce de brume où il fait chaud humide, les fronts coulent, je regarde les autres corps confondus apparaître, disparaître, devenir flous. Et je ne bouge plus. Je souffle, j'essaie, je souffle.
Merci Marie pour ces premiers extraits de Jardin. Tout est du vécu, du coup, c'est des descriptions de lieux, de quotidien. Moi, ce que j'ai ressenti en le lisant, c'était que tu exprimais ce que tu voyais autour de toi, ce que tu entendais, ce que tu ressentais, ce que tu pensais. Bon, après, la pensée, elle part des fois dans tous les sens. Donc, tu es dans une boulangerie, puis tu vas partir. Ça va t'emmener ailleurs, en fait, mais ton corps, il est là. Et ta pensée, par ailleurs, il y a un va-et-vient comme ça que je sens aussi entre la ville et la nature, comme je disais tout à l'heure. Tu l'as écrit de manière linéaire ou après c'est des petits morceaux que tu as réagencés? Comment ça s'est passé?
Oui, il y a eu un gros travail de montage sur ce texte. Je l'ai écrit par fragments, plutôt court en fait. Et je pense qu'on peut sentir les fragments dans les sauts de lignes. Mmh.
Il y a même des pages où il n'y a que 2-3 lignes.
Voilà, c'est ça. Et ensuite, j'ai fabriqué les 6 parties du livre.
Oui.
Et en fait, je suis vraiment passée à un moment donné du processus d'écriture par imprimer le texte, découper tous les fragments et les réagencer les uns avec les autres pour fabriquer une sorte de fil.
C'est un cheminement aussi.
Exactement,
hein. Tu marches beaucoup aussi en plus dans le texte. Il y a une marche, il y a une promenade.
Mmh.
Ouais. Et puis avec des retours des fois des éléments qui reviennent, comme la danse, comme les... Là, tu, dans l'extrait, tu parles des traces que laissent
les lignes d'aération du train.
Voilà, et t'en parles à un autre moment, en parlant cette fois des traces que va laisser l'oreiller sur le visage quand on se réveille. Donc, il y a des retours comme ça sur des motifs, des motifs.
Oui, tout à fait. Oui, je pense que ça permet vraiment de jalonner le texte. Je pense vraiment que le motif principal, c'est le déca. Moi, dans ma tête, vraiment, c'est un texte qui part de cette image-là, de l'arrêt du café et de cette personne qui est vraiment très, très proche de mon corps et de moi.
Comme une désintoxication, il y a quelque chose de cet arbre-là.
Oui, tout à fait, de sortir d'une emprise, de sortir d'une anxiété aussi. Il y a tout ce truc du souffle, de s'arrêter, quoi. Et puis ça revient en boucle.
Ouais. Est-ce que cette emprise, c'est une question que je pose, hein, c'est pas celle de la ville et c'est la nature qui va te permettre justement d'en sortir, de respirer. C'est une question que je pose.
Peut-être. J'avais pas songé de cette manière-là. J'ai l'impression qu'il y a une forme de confusion à un moment donné sur le corps et l'espace. Enfin, donc, est-ce que le corps devient la roche, devient l'eau, devient les oiseaux dans le ciel ? Enfin, peut-être que ce qu'il y a une échappée vers cet espace de pousse, des choses qui poussent.
Qui est mouvant, parce que, par exemple, à un moment donné, tu dis, je te cite, les villes qui ont un pouvoir d'inertie me fascine et m'attire autant qu'elle me répulse. Je m'y installe par désir de faire corps avec cette résistance. Donc la ville est plus quelque chose de figé, alors que la nature est plus mouvante et comme tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, qui bouge.
Mais c'est intéressant, peut-être que le rapport à la nature, pour moi, fait écho à un rapport de paix, mais de paix dans le sens vraiment politique du terme, dans le sens où on va prendre soin d'un espace naturel qui est un bien commun à l'humanité, là où la ville va fabriquer des divisions, va fabriquer des segmentations sociales, culturelles.
Et de la tension aussi, une forme de guerre, effectivement.
Et bien sûr, oui, tout à fait. Et en fait, cette notion de guerre, paix, ça peut se fabriquer à toute petite échelle, en fait, je pense, dans des rapports humains, et même avec soi-même.
Exactement, même à l'intérieur de soi, c'est ça. Alors, il y a un autre extrait musical, une autre référence à une musique dans le texte, donc on va l'écouter. Moi, j'ai découvert, il s'agit d'un groupe, c'est ça, qui s'appelle Catastrophe. Le titre, c'est Phénix, il y aura un matin. On l'écoute et puis après, on en parle.
Nous n'aurons plus le temps d'être pressés. Quand nous n'aurons plus rien à prouver, que nous aurons fait ce que nous avions à faire, que les piles des mondes d'hier se seront dissoutes et qu'il n'en restera plus que des cendres muettes, parce que nous n'aurons retenu que le silence. Lorsque toutes nos phrases faciles et décevantes se seront évanouies, le jour où l'on verra le premier degré courir tout nu dans les rues, quand nous aurons tué la nostalgie et que nous aurons oublié le visage de David Bowie, quand nous aurons fini de nous moquer et que l'innocence sera permise à nouveau, lorsque les statues seront mortes, que nous n'aurons plus peur, quand nous n'aurons plus rien à faire de nous-mêmes, d'ici ou même pas, quand nous apparaîtrons, alors nous serons des héros. Ce jour-là qui est venu, qui est là devant toi.
C'était Catastrophe avec le titre Phoenix, il y aura un matin. Dans Jardin, tu écris, je connais la chanson par cœur, et puis tu transcris la fin que nous venons d'entendre, la chanson dit, n'ayez pas peur car il y aura un matin après la grande nuit. Qu'est-ce que c'est pour toi le matin? Tu en parles dans Jardin d'ailleurs. Peut-être que tu veux répondre en lecture à cette question?
Oui, je pense que ce sera comme ça. Très bien. Les matins, je regarde le soleil se lever derrière les montagnes, et les montagnes deviennent un peu roses, un peu dorées. Je fais des réveils, des instants de doute, où chaque pensée entraîne une autre après elle, et selon le nombre d'heures dormies, les pensées sont rapides ou lentes. Les pensées peuvent aller si vite que je crois devenir une personne que je ne suis pas, je crois devenir la personne que je suis réellement, et la personne que je crois être devient un grand mensonge. Alors j'ai peur. J'essaie de démarrer le jour dans l'action pour m'accrocher au réel et croire à une vérité du moment, de la même manière que je crois au décaféiné que je bois dans le café de la rue. Mais certains matins sont si longs à démarrer que je ne parviens ni à l'action ni au repos. J'attends encore et encore et encore, mes mains, mon corps, ma peau n'atteignent pas ni la roche, ni la douche, ni le carrelage de la chambre. Les villes aux mille visages me rappellent que j'ai mille visages. Chaque matin, j'ai un visage qui tente de poindre. Chaque matin, j'endosse la ville sur ma peau. Chaque matin, je suis un visage de la ville, et si je regarde au loin, je peux espérer que rien ne se déformera. Il arrive que certains jours soient dédiés au rien. Je reste dans le silence. J'attends que le trop-plein de la veille s'écoule. Lentement, je ne peux rien y ajouter.
Merci Marie pour cette lecture extraite de Jardin. Tu lances le recueil publiquement demain, samedi 2 novembre, à la librairie Les Sauvages, qui est située 27 boulevard Philippon à Marseille, dans le quartier des 5 avenues. Ça sera à quelle heure?
Ça sera à 17h30.
Donc 17h30, lecture, présentation de l'ouvrage.
Exactement. Au Sauvage, dans le patio, entouré de plantes.
La librairie Les Sauvages, pour préciser, c'est une librairie qui a ouvert il y a quelques mois et qui propose donc des livres et des plantes.
Et des plantes.
Donc ton recueil a tout à fait sa place.
Exactement.
Par rapport à la librairie Les Sauvages, ça me permet de faire le lien parce qu'en fait, tu animes, je disais au début de l'émission, les stades poétiques. Et moi, c'est dans cette librairie au mois de juin que j'ai découvert, que j'ai participé pour la première fois au stade poétique que tu organises donc depuis le mois de février à Marseille. Donc ce sont des scènes ouvertes de poésie. Stade poétique, pourquoi?
Pourquoi? Parce que peut-être, je crois que tout le monde a entendu cette phrase « tu vas au stade ce soir
»,
qu'on entend beaucoup dans les cafés, au comptoir, et qui désigne évidemment le stade Vélodrome pour voir jouer l'OM. Et donc voilà, j'ai voulu m'emparer de ce dicton local pour fabriquer le stade poétique comme un espace de démocratisation de la poésie, du partage de textes, d'intérêt pour la littérature, quel qu'il soit en fait, qui qu'on soit, mm-hmm. et quelle que soit l'expérience qu'on a de l'écriture. Pour moi, les stades poétiques, c'est vraiment des moments où j'aurais envie que des voix différentes se croisent autour de l'intérêt poétique, tout simplement. Voilà.
C'est ce qui se passe, puisque le dernier auquel j'ai participé et pour lequel j'avais enregistré l'émission, il y a une dizaine de personnes qui se sont succédées, une dizaine de voix, du coup, différentes. Et puis, j'imagine qu'à chaque fois, ce sont des personnes différentes, d'autant plus que la particularité de ces stades poétiques, c'est que tu les organises dans des lieux différents.
Exactement.
Presque à chaque fois. Bon.
Exactement. Ouais. Je sais que les lieux à Marseille sont tous liés à des identités sociales et culturelles. Donc, j'essaie de déplacer le stade dans plusieurs endroits pour éventuellement permettre à des personnes qui n'auraient pas l'idée ou l'envie de rentrer dans une librairie, de pouvoir participer quand même, si par exemple ça se passe dans un bar ou dans, voilà, j'aimerais bien aussi déplacer le stade dans des lieux associatifs. Là, il y avait cette envie avec la librairie internationale de faire une émission dans la rue, devant la librairie, sur une petite place. Dans l'espace public.
Autour de la Canebière, du coup ?
Entre la rue Scotto et la Canebière, il y a une petite place avec un très beau lampadaire.
Ok.
C'est une place qui n'est absolument pas utilisée. Elle est, je pense, essentiellement investie par les pigeons. Mm-hmm. J'en ai discuté avec Anne-Sophie de la librairie internationale et elle était assez enthousiaste de pouvoir investir cet espace qui, en fait, quand on se place au niveau de la rue d'Aubagne, c'est la continuité visuelle de la rue d'Aubagne en traversant la Canebière, quoi. Donc, c'est un spot assez incroyable, je pense, dans l'espace public.
Et oui, et puis là, vraiment, avec du public qui traverse, qui passe,
qui n'est pas
forcément lié à la poésie, mais qui, du coup, pourra en entendre,
éventuellement prendre la parole, et ce serait donc ouvert à toutes les langues.
Ok. Pour le moment, c'est un projet.
C'est un projet. Donc,
on n'a pas de date.
Ouais, on n'a pas encore de date précise, mais voilà, c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire. Et peut-être que il y aurait un partenariat avec deux autres scènes poétiques qui existent et voilà, pour mettre en commun les efforts.
D'accord. Donc, à suivre. Alors,
à suivre.
Il y aura c'est tous les mois à peu près les
stades poétiques ? À peu près tous les mois, tous les mois et demi. Et l'information passe par les réseaux, sur Instagram. J'essaie de déposer des affiches et des flyers dans quelques lieux de la ville. Et donc, pour s'inscrire, voilà, c'est une scène ouverte. Donc, il y a toujours un moment à la fin de la scène où le public peut lever la main pour lire un texte spontanément. Et je fais un système d'inscription également qui n'est pas du tout sélectif. Hein. Voilà, envoyer un petit mail quelques jours avant la scène pour dire j'aimerais lire un texte. Et comme ça, la première partie des soirées, ce sont ces personnes inscrites qui ouvrent. Voilà.
Ouais. Et reste toujours de la place après pour
les
personnes.
Il reste toujours de la place parce que je ménage ce temps-là. Mm-hmm. Et donc l'adresse mail,
oui,
c'est stadepoétique@gmail.com. C'est très facile.
Voilà, ça c'est pour avoir des informations et
exactement.
Puis pour s'inscrire quand les événements sont annoncé, donc il y en aura un en novembre.
Exactement, ouais.
À suivre après le lancement de ton recueil Jardin, donc chaque chose en son temps.
Voilà.
Il nous reste quelques minutes. On pourrait parler, si tu le veux bien, de tes recherches visant à tisser des liens entre littérature et territoire. Concrètement, est-ce que comment ça se manifeste, qu'est-ce que tu envisages et qu'est-ce qui a déjà été fait ou qui est prévu dans ce cadre-là? C'est toujours en lien avec ton parcours d'architecte.
Ouais. Ouais. C'est vrai que j'ai très envie de revenir. En fait, le passage entre l'architecture et la littérature, ça a été vraiment tout un processus et je pense que ça s'est vraiment passé quand j'ai fait le master de création littéraire au Havre. Qui d'ailleurs était une expérience vraiment fantastique de ma vie. Donc ça a été une vraie translation, je sais pas comment dire, j'ai dû me défaire d'outils, de dessins. Enfin, j'avais vraiment, quand on commence des études jeunes, en fait, le cerveau se formate. Oui, il faut le dire. Et donc voilà, de trouver l'écriture, ça m'a demandé quand même de me défaire de beaucoup de choses et d'acquérir énormément de choses et de lire. Et bon, voilà, il y avait toute une culture que je n'avais pas et que je suis toujours en train d'acquérir. Bref, malgré tout. Ce rapport à l'espace revient tout le temps au galop chez moi et je me demande vraiment là depuis quelques temps comment tisser des liens. Donc disons que le premier pas que j'ai fait vers ce pont-là, c'est de donner des cours à l'école d'architecture de Marseille. Donc je suis enseignante une fois par semaine pour des étudiants en master, en quatrième et en cinquième année.
Oui, et tu donnes les cours de... Quoi ?
Je donne des cours d'écriture créative.
D'accord.
Donc en fait, les étudiants et les étudiantes qui, donc en cycle master, sont déjà complètement formatés, s'emparent de l'outil de l'écriture et de la création pour penser l'espace, pour créer de l'espace. Et je les fais aussi réfléchir sur leur posture en tant qu'architecte. C'est-à-dire qu'on essaye quand même de toujours essayer de se replacer soi en tant que corps, en tant qu'architecte, dans ce qu'on va construire et dans la manière dont on le fait. Je pense que c'est quelque chose qui n'existe pas assez en école d'architecture, voire pas du tout. L'acte de construire n'est pas neutre, enfin, c'est une évidence de le dire, mais on peut quand même le redire. L'acte de construire est extrêmement politique et extrêmement sensible, et je pense que le faire en conscience, ça ne peut que faire du bien à l'avenir.
Oui, tout à l'heure, tu me disais justement, quand on parlait de cette activité d'enseignement, tu me disais les architectes, ils vont penser en termes de forme, ils dessinent toute la journée, mais derrière, il y a un scénario quand même dans la tête, donc il y a du langage. Il y a des mots.
Il y a des mots, il y a des mots, il y a des images et il y a des mouvements de corps. En fait, l'architecture, c'est un mouvement de corps. Quand on dessine une chambre dans laquelle le lit sera forcément collé au mur parce que, je dis un exemple super bateau, hein, mais parce que en fait, la chambre est petite et que du coup, si on y dort en couple, on va devoir enjamber le partenaire pour sortir du lit. C'est un mouvement de corps et c'est un mode de vie et ça sous-tend des relations humaines, etc. Enfin, voilà, donc là, je vous le donne à l'échelle hyper intime pour donner une image compréhensible, mais ça se répercute dans des interactions de l'espace urbain, etc. En fait, on planifie. Mais évidemment qu'il y a des choses qui échappent à la planification des architectes, et heureusement. Mais c'est intéressant de se poser la question, en fait, et d'aller creuser dans cette direction-là. C'est quoi la conséquence d'un trait?
Oui, qui va se matérialiser concrètement dans un objet, un mur, un plafond, etc.
Oui, ouais, tout à fait.
Il y a d'autres projets que tu voudrais mettre en œuvre, projets d'écriture ou d'arpentage que tu souhaiterais mettre en œuvre par rapport à ce projet de lien entre littérature et territoire?
Alors, l'idée de faire une thèse de recherche-création m'est passée par l'esprit. Peut-être que ce ne sera pas tout de suite. Je pense qu'en ce moment, je suis vraiment dans une démarche de recherche assez libre et que j'amasse des références, des informations, je prends des notes, jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de question, de vraie question.
Une problématique,
pour y dire. Ouais. Qui se dégage et qui puisse lancer en fait une recherche qui puisse être nourrie par la création. C'est-à-dire que ça ne sera pas de la recherche brute, quoi.
Okay.
Voilà, après, je pense que dans mon travail de littérature, il y a toujours ce rapport à l'espace qui est tout le temps présent. Là, dans le projet Caillou que je suis en train d'écrire, il y a vraiment ce rapport de territoire et de guerre qui est tout le temps, qui est encore là. Mais ce qui me questionne, là, pour l'instant, mais c'est peut-être un peu flou, c'est ce vase communicant, cet aller-retour entre un espace qui fabrique un récit et à l'inverse, un récit qui fabrique un espace.
Ouais.
Et donc, en fait, on est tout le temps dans ce cercle vicieux-là. Et c'est super intéressant d'aller creuser dans ce mécanisme, en fait. Voilà.
Merci, Marie. On approche de la fin de l'émission. Donc, je donne rendez-vous aux auditeurs et aux auditrices demain, samedi 2 novembre, à la librairie Les Sauvages, 17h30, pour découvrir d'autres extraits de Jardin. Donc, ton premier recueil publié aux éditions L'Arbre à Parole.
Merci de m'avoir écoutée jusqu'ici. Et je serai très heureuse que vous lisiez ce livre et qu'on puisse en discuter ensemble et se rencontrer au Sauvage le 2 novembre. Et je pense qu'il y aura certainement d'autres événements autour du livre dans les mois qui suivront.
Donc tu les annonceras sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur la page de Stade Poétique
Sur ma page privée, perso, c'est Siloé Marie, S-I-O-L-E-M-A-R-I-E, voilà.
Et donc, on peut aussi te retrouver à l'occasion des stades poétiques qui seront annoncés également sur les réseaux sociaux. Donc, merci Marie de ta venue. Je remercie Sidi qui fait la technique Aujourd'hui, c'était Poésie in the City sur Radio Galère 88.4 FM. Vous pourrez bientôt réécouter cette émission sur le site internet de la radio, radiogalère.org. Et vous pouvez suivre toutes les infos sur la page Facebook de Poésie in the City. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ce sera le vendredi 6 décembre de 16h à 17h pour une prochaine édition de Poésie in the City. Au revoir, à bientôt.
Poésie in the City, c'est tous les premiers vendredis du mois de 16h à 17h sur Radio Galère 88.4 FM à Marseille. Avec des invités, de l'actu, du live, des coups de cœur et de gueule, quelques notes de musique et beaucoup de mots d'amour.